Allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever.
Oui.
On vient de faire l'amour, tu sais.
Non, tu viens de faire l'amour.
Je vous demande pardon.
Est-ce que vous l'aimez? Je t'aime.
Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça?
Bonjour Clara.
Bonjour Flore et bienvenue dans Rome Comment, le podcast qui t'explique comment mais comment sont construites tes rom-com préférées. Et bonne année, on commence le podcast comme on a fini le dernier.
Oui, 2021, ça arrive. On est trop contents de faire cette petite rentrée avec vous pour une année qui, on l'espère, sera aussi festive qu'une bonne rom-com.
Parce que pour l'instant, j'aimerais juste vous rappeler que Trump a été banni de Twitter, qu'il y a eu un coup d'état aux États-Unis et qu'il neige à Madrid pour la première fois depuis, il me semble, quelques siècles. Donc, hey, welcome 2021.
Écoutez, là, Clara, elle est Mimi, elle raconte que des trucs politiques, mais est-ce qu'on peut aussi souligner que l'un des deux membres de cette équipe, donc Clara, a également, en ce moment, nous parlons le Covid pour la deuxième fois en 6 mois.
Ah, 6 mois, tu es bien gentille. En effet, chers amis, je vous parle Covidé. Enfin, plus trop Covidé, puis ça fait une semaine, donc normalement c'est terminé. On touche du bois. Et oui, en effet, je l'ai eu pour mon anniversaire la dernière fois, ce qui était un très beau cadeau, au mois de septembre. Et là, mon système immunitaire est celui d'un bébé mouette. Et je l'ai donc rechopé en ce début d'année. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je suis extrêmement fatiguée, mais j'ai tenu à faire cet épisode de janvier quand même, parce que pour cette rentrée, ce mois de janvier, on a choisi un film qui, pour la première fois dans l'histoire de ce podcast, est un film que j'ai vu, que j'affectionne et que Flore n'avait jamais vu. Et quand vous allez savoir de quel rom-com il s'agit, vous allez être surpris
là,
du fait que Flore ne l'avait pas vu.
Je vais passer pour une fraude intersidérale. On m'a me révoqué ma carte de spécialiste de rom-com parce qu'aujourd'hui, nous traitons le film Coup de foudre à Notting Hill que je n'avais jamais vu. Voilà, je l'admets. Et on a décidé de le traiter sous le trope du poisson hors de l'eau.
Fish out of the water.
Qui est, si comme moi, vous ne saviez pas exactement ce que voulait dire l'expression et que vous avez dû chercher sur Google, ça veut dire quand on n'est pas dans son élément et qu'on est un peu mal à l'aise.
Exactement.
Et pour raconter un peu ce que c'est que Notting Hill avant que Clara nous raconte l'histoire, vu que c'est une spécialiste, pour ceux qui ne connaissent pas, petit fun fact, c'est une comédie romantique anglaise qui est sortie en 1999. Donc ça date. Ça a été réalisé par Roger Michell. Il y a Hugh Grant et Julia Roberts. Et surtout, le scénario a été écrit par, évidemment, c'est une rom-com anglaise, Richard Curtis.
Oui.
Il est toujours dans les bons bails. C'est un film extrêmement connu. C'est un classique. Budget 42 millions. Box office 363 millions.
Anyways.
Un bon bail. Mais voilà, est-ce que Clara, vas-y, raconte-nous l'histoire.
Alors, l'histoire, c'est déjà très simple parce que c'est un truc qu'on a tous fantasmé de vivre un moment dans notre vie, mais qu'au final, on n'aimerait pas vivre vraiment. C'est l'histoire de William, qui est libraire à Londres, donc dans le petit quartier de Notting Hill, vers Portobello Road, et qui un jour reçoit dans sa librairie la visite de Anna Scott, qui est l'équivalent de Julia Roberts dans la vraie vie. Donc c'est une actrice qui est très connue, qui est très convoitée de tous les hommes, et qui est genre vraiment la coqueluche du moment. Et ils vont tomber amoureux parce que c'est une rom-com. Mais lui vit dans son petit monde de libraire londonien, elle vit dans son énorme monde de star interplanétaire à Beverly Hills. Comment vont-ils faire pour cohabiter? Vous le saurez dans ce podcast si vous n'avez pas vu le film. Mais franchement, si vous ne l'avez pas vu, c'est une offense fédérale et regardez-le s'il vous plaît.
Je pense que tout le monde l'a vu à part moi. Voilà, je l'admets. mais écoutez, je suis très contente de redécouvrir, tu vois, après coup des classiques et tout. Et du coup, je vais en profiter pour donner mon avis. J'étais assez surprise par Coup de foudre à Notting Hill parce que je trouve que ça n'a pas vieilli. C'est fou.
Oui, et je me suis fait la même réflexion.
22 ans et il y a une ou deux blagues un peu mais franchement c'est assez intemporel, j'étais assez surprise. Je trouve que l'alchimie marche bien. Après, personnellement, le coup de foudre, c'est pas du tout un de mes tropes préférés dans les rom-com. J'ai beaucoup de mal à avoir de l'intérêt pour une relation qui va si vite. Mais je trouve quand même qu'ils ont une bonne alchimie. Ce que j'ai préféré personnellement dans le film, c'était tous les personnages secondaires et comment ils interagissent, etc. Je trouve que le film est assez long. J'ai appris après coup qu'il y avait 90 minutes qui avaient été coupées au montage, sachant que le film fait déjà 2 heures. J'étais assez surprise. Donc je trouve parfois que le rythme est un peu off, mais je trouve que ça se laisse voir, c'est so british, et personnellement, on en a déjà parlé dans ce podcast, mais c'est nos rom-com préférés avec Clara, c'est les anglaises. Et, alors surtout, je ne vais pas mentir, le tout début de mes notes, quand je me suis mis devant le film cet après-midi, c'est « Est-ce le jour où je tombe amoureuse de Hugh Grant ?» spoiler alert pour les auditeurs et auditrices. Oui, c'était aujourd'hui, c'est arrivé, c'est bon, c'est trop tard.
Je suis d'accord avec toi. Sur la longueur du film, je ne me souvenais pas qu'il était aussi long, et quand j'ai commencé à le regarder, que j'ai vu 2h04, j'ai fait « Ouh !» C'est super long, 2h04, pour un film où finalement il se passe pas grand chose et c'est souvent les mêmes schémas narratifs de « Ah, il s'aime plus ». Enfin, moi je sais que je suis très vite lassée par ce genre de choses. Cependant, je trouve que la force de Coup de foudre à Notting Hill, c'est le charme anglais en fait. Et genre, ça te donne envie d'aller tout plaquer et acheter une maison à Portobello Road, ce qui est impossible. Soyons-en clairs.
Aujourd'hui, c'est fini.
Et de devenir libraire et d'avoir des petites lunettes cerclées dorées comme ça. Et en fait, je trouve que ça marche parce que c'est un peu une fable. Le trope du coup de foudre, j'aime pas trop non plus. Enfin, je sais pas que j'aime pas, mais disons que je favorise pas en tout cas les rom-coms qui ont ce trope-là parce que je suis un peu comme toi. Pour moi, une relation, ça se bâtit. Ça se bat. Ça se bâtit. sur plusieurs mois, semaines, années. Et en fait, là, je trouve que moi, ça fonctionne avec moi parce que c'est une histoire de... C'est un conte de fées, en fait. C'est genre, j'ai aucun mal à croire à cette histoire parce que c'est Hollywood qui t'en met plein dans les yeux en te disant « Mais non, on est un film indépendant anglais. » Et je trouve que c'est très réussi. Enfin, avec moi, ça marche à fond. J'adore les personnages secondaires. Je trouve que les personnages féminins ne se ressemblent pas, ce qui est rare dans une rom-com. Après, j'ai aussi des problèmes avec le personnage d'Anna en tant que tel que j'ai à la revoyure de ce film. Je l'ai trouvé un petit peu antipathique de temps en temps. Et j'avais beaucoup plus d'affection pour le personnage de Hugh Grant. Et j'aime pas trop quand c'est disproportionné comme ça dans une rom-com. Mais voilà,
je suis d'accord.
Ça se regarde, c'est très bien. Voilà.
Après, on en reparlera, mais moi, Hugh Grant, j'ai trouvé un peu insupportable par moment dans le film. Donc je pense que ça se vaut. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que, on en reparlera, mais les personnages, enfin, la dynamique entre l'homme et la femme dans cette rom-com est assez... c'est assez rare de voir comme ça la fille un peu genre mystérieuse, un peu renfermée, lui qui est beaucoup plus très quirky, très maladroit et tout. Je trouve que
c'est l'inverse.
Rare, donc c'était sympa. Et surtout, comme tu dis, moi je trouve que c'est ouf de réussir à faire un film qui ressemble à un petit film indé anglais, alors qu'il y a Julia Roberts dedans, et que ça traite de sujets. Je sais si ça serait à l'américaine, mais ça aurait été tellement mais over the top, en mode star bling bling à Hollywood et tout. Mais que dire, les Anglais, au moment où nous vous parlons aussi, c'est bon, c'est fini, ils sont plus en Europe. C'est très dur pour moi personnellement.
Mais oui, c'est physiquement éprouvant.
J'ai une relation très passionnelle, mais très complexe avec l'Angleterre, le Royaume-Uni. Mais ouais, franchement, à chaque fois, les films, qu'est-ce qu'on peut dire ? On ne peut pas leur enlever. C'est des génies de la rom-com.
Mon cœur, relativement inexpérimenté, risquerait fort de ne pas se remettre. Et si jamais. Une fois encore, j'étais jeté comme je suis certain de l'être, finalement.
Le réalisateur de Notting Hill me charme dès la première minute, puisque ça s'ouvre sur des images donc, de Anna Scott, qui est la protagoniste féminine, donc Julia Roberts, et une musique de Charles Aznavour, qui reprend une chanson de, ça doit être Dean Martin ou Frank Sinatra, qui s'appelle « She ». Et en école de cinéma, on nous avait fait analyser, j'embrasse Monsieur Blanchot s'il passe par là, mais je suis quasiment certaine que vous me détestez. En cours de découpage, on avait analysé cette séquence et mon prof, ce qui était vraiment un prof hyper intéressant, nous avait dit pourquoi à votre avis il a mis Aznavour et pas la version originale. Parce que le français, c'est la langue de l'amour, c'est la langue du romantisme. Mais ils l'ont fait chanter en anglais parce que c'est un film targeté pour les Britains et les Ricains. Donc forcément, ils n'allaient pas faire chanter un mec en français au début parce que ça fait trop snob. Donc voilà, bisous Charles Aznavour qui est mort maintenant. Mais voilà.
Je vais te dire, si on avait été dans un film indé américain à la Sundance, ça aurait été en français.
Ouais,
ils adorent les trucs en français,
de
ce genre de film. Mais là, c'est
mais ça aurait été un remix de Bon Entendeur. Ça aurait pas été l'original.
Donc, on peut aussi se souligner, est-ce que Anna Scott, c'est pas le nom le plus cool d'actrice, genre le nom de personnage, lui s'appelle genre William Thacker, ou un truc comme ça, et elle c'est Anna Scott, et en plus elle est censée être américaine, ça le fait tellement, genre c'est tellement un bon nom de personnage, et le générique te la présente en mode c'est une superstar, mais tu sens déjà qu'elle a des secrets, il y a des petits plans... Où il y a les vitres qui se remontent dans sa limousine, elle a des choses à cacher.
Ça se voit qu'elle est spéciale.
Ce n'est pas juste une actrice.
Elle n'est pas comme les autres actrices. Et après Anna, on enchaîne donc avec le plan de présentation de William, le deuxième protagoniste. Et on nous présente surtout la reine dans laquelle va se dérouler tout le film, qui est Londres. Et plus précisément, le quartier de Notting Hill. Le quartier qui jouxte Portobello Road, où il y a un grand marché, etc. Donc c'est un quartier qui est hyper populaire, familial et tout. Enfin, surtout en 99, maintenant, c'est quand même très bobon.
Alors, clairement, moi, j'ai noté, j'étais là, « Ah, c'est Notting Hill avant la gentrification hein, !»
Oui, voilà, c'est ça.
Personnellement, non, Clara et moi avons toutes les deux vécu à Londres, toi avant moi, mais bon, dans les années plutôt 2015, tout ça.
Ouais.
Maintenant, Notting Hill, c'est pas trop cette ambiance. Il y a toujours le carnaval de Notting Hill, qui est un événement très populaire et très, un peu plus, enfin, moins upper class et tout. Je peux vous dire, c'est... Et d'ailleurs, je crois que le réalisateur, Richard Curtis, enfin, le scénariste, pardon, le dit lui-même que, en fait, ça, c'est vrai que ça a pas mal changé et qu'il pense que le film a un peu contribué à cette hype autour de Notting Hill.
Bah totalement, puisque ma prochaine anecdote, c'est que William, tel qu'il nous est présenté, a ses habitudes, il a sa petite maison avec sa porte bleue, il habite là-bas, il y est comme un poisson dans l'eau, et cette maison avec cette porte bleue, vous pourrez la retrouver très bientôt sur le Twitter de Romcomment, car je vous montrerai la photo que j'ai prise quand j'habitais à Londres, et que j'étais, et je suis un peu toujours, une fanzouze de Richard Curtis, et que j'allais à peu près toutes les localisations d'endroits où il avait tourné des films. Voilà.
Mais clairement, maintenant, j'ai trop envie d'aller voir cette porte. J'ai pris dans mes notes aussi, j'ai mis « Londres me manque, laissez-moi partir ».
Yes.
Mais en effet, comme tu as précisé, on en apprend un peu plus sur son univers, l'eau dans laquelle le petit poisson nage, pour filer la métaphore de notre trope. C'est tellement british. C'est en mode, voilà, petite vie cool de quartier. Il vit avec un coloc qui est hyper chipper, Spike. Il est divorcé, par une femme qui m'a laissé pour quelqu'un qui ressemblait à Harrison Ford. et il est libraire dans une librairie de voyage, mais il est fauché. Enfin bref, tu construis tout ce petit archétype de ce mec qui a toute sa petite vie. Ça m'a fait trop rire, la librairie avec les bouquins de voyage. J'étais là, ah bah si déjà à l'époque ça marchait pas, en ce moment ça doit vraiment pas être...
Et qu'on a oublié de dire qu'il est très beau. Je trouve que c'est le film où Hugh Grant est le plus beau. Il est superbe.
C'est limite insupportable tellement il est charmant. Le mec, tu sais, il met sa veste, tu sais, sur son épaule. Tu tiens une main sur ton épaule et je suis là. Et il la joue en mode genre, j'ai ma petite dégaine et je fais... et genre, je ne fais pas d'efforts, c'est naturel et tout, mais tu fais tellement d'efforts. Genre, personne met sa veste sur son épaule comme ça, sans savoir ce qu'il fait.
Et il est donc dans sa petite librairie, vit sa petite life de mec beau, et une femme rentre dans sa librairie un beau jour. Et elle a plus d'aura que l'arbre de l'Airbnb de Flore et Justine, qui maintenant va vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vanne, mais personnellement je la trouve excellente.
Oh mon dieu, oui, écoutez, je rentre d'une petite semaine de vacances avec l'une de mes meilleures potes, où on était dans l'Aude, donc dans le sud-ouest de la France, et les propriétaires de l'Airbnb où on est resté nous ont amené faire une balade, et à un moment ils nous ont demandé si on voulait sentir l'aura de l'arbre, donc voilà, j'ai dû m'approcher d'un arbre, les deux paumes vers le haut, en essayant de sentir l'aura. Heureusement, ils étaient moitié chez père parce que la meuf a dit « Bon, moi, j'arrive jamais à le sentir de toute façon, donc ça m'a un peu rassurée. » Voilà, mais je pense que je préférais sentir l'aura de Anna Scott, on va pas se mentir.
Voilà, en tout cas, Anna Scott a plus d'aura que l'arbre, puis que quand elle rentre dans la boutique, il y a plus un bruit, ça fait genre « ouf ». Et elle rentre, elle est là, elle flâne, elle regarde les livres. Et nous, on sait qui c'est, parce qu'on a vu le générique. Mais jusqu'à un certain moment, on ne sait pas si William sait qui elle est. Et lui, il est juste là, genre, non, mais ce livre, il est trop nul et tout, parce qu'elle regarde des livres sur la Turquie. Et il lui en propose un autre avec une sacrée histoire de kebab.
Qui me permet de raconter une petite anecdote personnelle. Parce qu'il dit, voilà, parce que personnellement, j'ai eu une anecdote d'un incident de kebab à Londres, qui est quand j'y ai vécu. Je suis rentrée de soirée assez ivre et j'ai acheté un kebab. Et j'ai marché jusqu'à chez moi et j'ai fait tomber mon kebab par terre. Et je l'ai regardé. Le kebab m'a regardé. Je l'ai regardé, on s'est regardé. Je l'ai ramassé, je l'ai remis dans la boîte. Je suis rentrée chez moi, je l'ai mangé. Voilà. J'ai genre laissé quelques frites qui étaient vraiment trop par terre, tu vois. Mais j'étais là, je venais de l'acheter.
Oh non.
Voilà. Écoutez, je ne sais pas si la librairie de William vend des livres sur ça. Pour l'instant, il achète des livres. On peut dire aussi que c'est un peu bizarre parce qu'il lui conseille... On a un peu oublié de dire, mais on nous présente vraiment son personnage parce qu'il est un peu awkward.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il lui dit « Vous avez besoin d'aide ?» Il dit non. mais il la conseille quand même.
Mais c'est une vendeuse Sephora, genre il l'oppresse avec ses conseils.
Et moi je dis, mais pourquoi il met un bouquin sur Istanbul? Et en plus, à la fin, il finit par acheter le bouquin où il lui a dit que c'était nul.
Ouais.
Je suis là, mais bref. Mais on va enfin savoir qui c'est.
On a notre petit élément déclencheur, puisqu'il y a un mec qui essaye de piquer un livre dans le bar rayon à côté. Et William lui demande gentiment de reposer le livre et de sortir. Et le mec vient, voit Anna et lui demande un autographe. Et donc on est genre, ah ok, c'est donc cette fameuse actrice incroyable. Et je la trouve très drôle, le personnage d'Anna. Mais je trouve qu'elle est déséquilibrée parce qu'elle est drôle, slash un peu désagréable. Et elle écrit en dédicace Rufus, le mec s'appelle Rufus, votre place est en prison parce qu'il a volé un livre. Et du coup, je trouve, putain, c'est trop drôle d'avoir une meuf avec un sale caractère un peu drôle comme ça. Enfin, je trouve que ça change dans une rom-com. Donc j'étais là, ça se voit qu'elle est différente. Et j'ai noté que c'était un meet cute, very cute.
Oui, mais un truc que je trouve qui est très agréable dans leur relation, c'est qu'il y a très vite beaucoup de tu sais, ils se taquinent, voilà, de la taquinerie, ils se cherchent un peu, etc. Ouais. Ce qui est un truc très british, tu sais, c'est le terme anglais banter, genre c'est très anglais, oui, tu te cherches ça. Et tout, tu te fous un peu de la gueule des autres. Ce qui est drôle, parce que Anna est censée être américaine, mais du coup c'est très anglais de sa part. Mais du coup, elle achète le livre, celui qui, où il lui a dit que c'était de la merde, mais bon, voilà. Et elle sort de la librairie. Moi, personnellement, je vis vraiment ce film, c'est la première fois que je le vois, hein, donc je suis en mode... Ah d'accord, c'était ça le... et maintenant, quoi? Il se passe quoi ensuite?
And now what? Eh ben now, comme on est dans une rom-com, forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un qui renverse un liquide sur quelqu'un d'autre. Donc William sort de... Je vais recommencer. And now what? Eh ben now, on est dans une rom-com, donc il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui renverse du liquide sur quelqu'un d'autre. Donc William sort de sa librairie et décide d'aller s'acheter un jus d'orange. Et en allant s'acheter un jus d'orange, qui est-ce qu'il croise et sur qui est-ce qu'il renverse le dit jus d'orange? Quelle surprise!
Anna Scott, is that you? En vrai, on peut le dire, on va se l'avouer. Personnellement, je suis très maladroite.
Oui, moi aussi.
Je crois que dans ma vie, je n'ai jamais renversé de complètement. J'ai renversé des verres sur des tables et c'est tombé sur des gens. Mais vraiment, de prendre quelqu'un de face avec un liquide dans les mains...
Ça m'est jamais arrivé non plus. En revanche, je l'ai fait sur moi-même. J'embrasse ma pote Léa, si elle passe par là, parce qu'elle m'a payé une bière après que je me sois fait larguer il y a... Ouais, ça doit faire... 4 ans peut-être, et au lieu de la boire, j'ai vraiment fait fondre sur mon t-shirt, donc j'aimerais vous signifier que je n'ai pas besoin de Hugh Grant dans ma vie, je peux me renverser mes verres sur moi-même.
Ah, si on part comme ça, j'ai fait beaucoup de meet cute avec moi-même, ça c'est clair.
Je suis l'héroïne de ma propre rom-com. En tout cas, ça va nous donner l'occasion pour nos deux protagonistes de se rapprocher, puisqu'il lui dit « J'habite en face, venez vous débarbouiller », donc elle vient se débarbouiller, et il lui propose du thé, évidemment, car nous sommes en Angleterre.
Et elle le refuse. Aussi, on voit, dans ce moment-là, pour revenir un peu sur le trope, quand elle rentre dans la maison de William, enfin l'espèce de maison-appartement, elle n'est pas dans l'univers. Le poisson est déjà hors de l'eau. Parce que, et surtout après, en fait, elle va aller se changer, elle va redescendre avec une tenue en mode genre diamant de partout, tu sais, super fancy. Donc, du coup, il y a vraiment cette espèce de décalage entre elle est hyper fancy et lui, il est beaucoup plus. Il essaie de nettoyer un peu sa table parce qu'il est là, genre merde, il y a quelqu'un d'important chez moi.
Il y a des plats dans l'évier, enfin ouais.
Lui, il est mimi, mais on va pas se mentir, il est un peu relou parce qu'il est un peu. Tu sais, il lui propose plein de trucs, elle arrête pas de lui dire non. Et je suis là, mais mec, Lila vibe.
Oui, c'est l'oppression.
Tu vois bien que genre là, elle veut pas te parler. Enfin, genre elle veut partir. Non. En fait, elle veut pas tant partir que ça, par contre.
Bah écoute, puisque elle s'en va, bon bah elle s'en va, et puis elle lui dit, ah, elle ressonne, et elle dit, ah, j'ai oublié mon sac, alors du coup, lui, ah, il va lui chercher. Et j'étais genre, putain, c'est vrai que ça patine ce film, et au moment où je me dis, ça patine un peu... Elle l'embrasse, donc j'étais là, ah, bah ça patine plus du tout, mais par contre, ça alors, va très vite.
Voilà, moi, non, mais non, j'ai écrit en majuscule, bah, il s'embrasse. What? Why? Bah, very choqué.
Very, very choqué indeed. Donc, ils s'embrassent. On est genre, qu'est-ce qui se passe? Et elle lui dit, si vous pouviez éviter d'en parler aux gens autour de vous, excusez-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris et tout. Et il lui dit une phrase. Moi, j'ai noté beaucoup de phrases de William Thacker parce que je trouve qu'il est terriblement romantique et j'adore ça. Il dit, je le raconterai à personne, je me le raconterai parfois à moi-même, mais ne vous inquiétez pas, je ne me croirai pas. Et je suis genre...
Okay. Ouais, il y a beaucoup de one-liners, comme on dit dans ce film, qui sont pas mal.
De ouf.
Mais
oh là là, moi j'adore.
C'est vrai que là, c'est assez... En fait, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'elle est très renfermée quand même. Elle est assez mystérieuse, assez renfermée, toutes les premières interactions qu'ils ont. Et du coup, quand ils s'embrassent, j'étais un peu là genre... Bon, ok, je sais que le film s'appelle Coup de foudre à Notting Hill et pas 6 mois de flirt à Notting Hill. J'étais quand même assez surprise. Mais je me dis, en fait, on comprend après, mais elle est un peu perdue dans sa vie, Anna.
Elle est complètement perdue et on comprendra pourquoi après. Mais en tout cas, pour l'instant, il y en a un autre qui est perdu. Et c'est le coloc de, comment il s'appelle, William, qui s'appelle Spike. Et qui, le surlendemain, sur-surlendemain, lui dit « Ah, au fait, t'as des messages d'une meuf qui s'appelle Anna, qui a dit d'appeler au Ritz en donnant un autre nom. » Et William, il est là « Et c'est quoi l'autre nom ?» Et le mec, il fait « Ah, je sais plus. » Je suis genre « Mais Fleur m'a dit pendant le film « Big Spike Energy » pour elle, mais pour nous deux. Hein. Clairement, nous deux, on est Spike. On serait beaucoup Spike dans cette rom-com.
Et voilà. Clairement, lui, il est à la fois, il est un peu insupportable, mais bizarrement, je trouve que pour un meilleur ami entre guillemets de rom-com un peu cliché, franchement, son personnage fonctionne bien. J'étais assez.
Il est attachant. Il est hyper attachant, je trouve.
Enfin, en fait, c'est tellement assumer son côté un peu absurde bébête que je sais pas. C'est parce que c'est anglais. Je suis pas objective, mais je trouve que ça marche bien. Et non, du coup, finalement, il arrive. À appeler le Ritz et c'est vrai que c'est rigolo de voir les deux mondes dans lesquels évoluent William et Anna parce que d'un côté William son la personne qui répond au téléphone pour lui c'est son du coup coloc qui est complètement chez père alors que au Ritz la personne qui répond pour Anna bah, c'est le monsieur de la réception qui lui est en mode genre hello bla bla qu'est-ce que je peux faire pour vous hyper poli quoi
hyper fancy hyper anglais et il lui dit bah vous êtes invité à venir la voir au Ritz et donc William il se dit oh, un moment privilégié avec cette meuf ça va être incroyable mais en fait pas du tout et là William rentre dans un autre monde que celui d'Anna et rentre dans le mien car c'est mon métier de faire des press junkets je travaille dans l'audiovisuel et je filme énormément d'interviews et du coup j'avais l'impression de retourner au boulot en regardant cette séquence où plein de journalistes s'entasse dans les couloirs du Ritz parce qu'en fait le réceptionniste lui a dit de venir au moment où le junket, donc la série d'interviews autour d'un film qui se font souvent dans les palaces, n'est pas encore terminée. Donc on a un quiproquo très classique de la rom-com. Flore.
Oui, en fait quand il arrive du coup et qu'il se rend compte que c'est un truc de journaliste, on lui demande bah, vous travaillez pourquoi et du coup il est là et il regarde autour de lui. Et il voit le premier magazine qu'il y a sur une pile de magazines et qu'il y a un magazine qui s'appelle, en anglais, c'est quoi un hound? C'est un genre un sanglier?
C'est un chien, c'est un chien de chasse.
Ah mais oui, un chien de chasse. Le nom du magazine, c'est Chevaux chasse et chien pêche, de chasse.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est pas toujours une traduction. sachant qu'il est là pour l'interviewer sur un film, donc c'est un peu cette espèce de l'humour très très british où c'est un peu décalé comme ça. Mais ça reste subtil en même temps, ça reste fin malgré tout. Et du coup, il arrive pour l'interviewer. Elle porte un costume.
Et j'ai noté « I'm so gay for Julia Roberts in a suit ». Vraiment.
Ouais, je suis assez... Pourtant, je suis pas forcément très sensible à son charme de base. Elle est magnifique, que... évidemment. Hein. Mais je vais pas mentir, ce costume a produit son effet. et évidemment, toute leur interaction est hyper rigolote parce qu'il est en mode genre « Je suis journaliste, est-ce qu'il y a des chevaux dans votre prochain film ?» Et elle est là, c'est un film dans l'espace. Bref, parce que lui, il a pas vu le film.
C'est trop bien.
Et surtout, elle lui explique pourquoi elle l'a rappelé.
Oui, elle lui dit « Oui, je voulais m'excuser pour le kiss et tout. » Et je trouve que là aussi, on voit que William, il est pas du tout dans son élément. Et c'est lui qui rentre dans son monde à l'inverse du début du film. Et il lui dit un truc qui est trop joli, il lui dit ce sont des choses qui n'arrivent que dans les rêves, les très beaux rêves, et je suis genre, toute cette troupe en fait du poisson hors de l'eau, c'est un peu l'un qui va vivre son rêve dans le monde de l'autre, puisque le rêve, enfin, Beverly Hills, Hollywood, ça fait rêver tout le monde, on a tous envie d'être une star pendant une journée, et de l'autre côté, on verra après que Anna, ce dont elle rêve, c'est d'une vie un peu plus tranquillou, et je trouve que, enfin, le troupe est très bien relié à ce moment-là. Et du coup, elle lui dit « Oui, désolée pour le baiser, c'était un peu... » Bon, voilà.
Là, tellement, mais l'excuse nulle. En mode, genre, je t'ai rappelé pour être sûre que c'était OK que je t'ai embrassée il y a 3 jours, je voulais pas te choquer. Genre,
nul.
Meuf, allez. Mais genre, dis juste que tu voulais le revoir, quoi. mais bon, ils ont du coup des petites échanges. Et c'est là que vraiment, on aussi affirme la personnalité de William comme celui qui est genre très quirky, qui est très un peu mal à l'aise, qui sait pas trop comment faire et tout. Et elle qui est beaucoup plus, en plus, comme c'est un truc de un événement presse et tout, enfin, tu sens qu'elle est quand même habituée à toujours être dans
le contrôle et tout.
La retenue, le contrôle et tout. Leur interview se termine, ce pauvre petit William se tape les interviews de tous les autres acteurs.
Ça, je trouve ça hilarant. Franchement, j'avais oublié cette séquence. Elle est super drôle. C'est trop, trop drôle. C'est vraiment bien.
Oui, clairement, c'est... J'aime trop. Et ensuite, surtout, très important, juste avant qu'il parte, il est rappelé par l'agent d'Anna qui lui fait revenir pour qu'il puisse discuter un peu tranquille avec Anna. Et on passe de « je suis désolée de t'embrasser, t'avoir embrassé il y a 3 jours, un peu comme ça, c'était un so random » à « ah ben je veux bien ton date à l'anniversaire de ta sœur ». J'étais là « ok ».
Mais c'est, franchement...
Les vibes sont...
Ça a escaladé super rapidement. Moi, j'étais là « ah ok, j'ai mis des points d'exclamation partout, c'est l'anniversaire de sa sœur, she'll be his date ». On saute donc à l'anniversaire de Honey, qui est la petite sœur de William, et j'ai noté pas beaucoup de représentations. Nous sommes dans une rom-com anglaise des années 90, donc c'est ce qu'on reproche la majorité du temps. Si vous écoutez ce podcast, pas pour la première fois, vous le savez, aux rom-com de cette époque-là, mais Bella, la meilleure amie de William, est handicapée. Et j'étais là, oh, c'est une femme en fauteuil roulant qui... n'est pas définie dès le début par le fait qu'elle est en fauteuil roulant. C'est genre, c'est, ah, c'est Bella, c'est la meuf hyper rigolote, qui a son mari qui cuisine mal et tout. C'est pas la meuf handicapée. Son handicap arrive plus tard dans la discussion parce que, bah, par le fait de, enfin, ils en parlent, quoi. Mais j'ai trouvé ça assez woke pour un film des années 90.
Ah oui, moi aussi, j'étais là, 1999 is shaking, quoi. C'est assez... quand tu sais que maintenant, de nos jours, en 2020, je peux pas penser à une seule rom-com où il y a quelqu'un dans un fauteuil roulant. Ah si, je crois qu'il y en a une française avec Alexandra Lamy, donc c'est pas ça?
Peut-être, et puis j'allais dire The Fault in Our Stars, mais c'est pas une rom-com, c'est très triste. Voilà. Je suis désolée, j'ai juste pas pensé.
Et ils sont pas... Non, ils ont le cancer. Ah si, ils finissent en fauteuil, je crois, mais c'est... Bon... Bref,
oui, puis il y en a un qui a un cancer des yeux, il est aveugle, c'est clairement un handicap. Donc, enfin bon, non, désolé, en effet, il n'y a pas de bonne représentation des handicapés dans les rom-coms.
Oui, ou il y a, si, si, j'y ai repensé, mais c'est pareil, en vrai, c'est pas vraiment une rom-com au final, le film Me Before You avec Emilia Clarke.
Ah oui, mais pareil, c'est triste.
Et non seulement c'est triste, mais en plus, si vous. Enfin, moi, j'avais regardé des vidéos de personnes en situation de handicap qui parlaient de ce film et qui disent que c'est vraiment une représentation horrible parce que c'est vraiment le trope de. Je suis handicapée, du coup, je préfère me suicider. Je préférerais me suicider que vivre comme ça, ce qui est un peu wild pour les gens concernés.
Il y a un débat qui n'a pas lieu d'être là-dessus, mais idem pour les personnes en situation de handicap plus mental que moteur. Et par exemple, les personnes autistes, alors qu'il y a des acteurs qui sont autistes, ne sont jamais joués par des personnes réellement autistes dans les films. C'est également un problème. Là, je ne pense pas que l'actrice soit handicapée. Et je pense que c'est une actrice valide, tristement.
Ouais.
Mais en 99, je voulais quand même souligner l'effort, entre guillemets. C'est pas mal. C'est déjà ça. Donc, on découvre le cercle... Vas-y, pardon.
Oui, non, mais c'est du coup, je voulais dire, c'est déjà pas mal. Et surtout, après, on va découvrir plein d'autres personnages qui sont assez attachants. Et assez, c'est ce que t'as dit au début, des personnages féminins qui sont tous très différents. On rencontre en particulier, du coup, la petite sœur, Honey. J'ai écrit « Zero chill, j'adore, on dirait une Spice Girl sous crack ».
De ouf. Mais c'est vrai, on dirait Ginger Spice, qu'on aurait pris un peu trop. Et dans le cercle d'amis de William, il y a aussi Max, donc le conjoint de Bella, et Bernie, qui personnellement, je me suis beaucoup identifiée à Bernie, parce que Bernie, il est perdu dans toutes les situations sociales. Donc en gros, quand ils arrivent avec Anna, tout le monde est là. Oh, mais attends, il a ramené Anna Scott en date. Non mais c'est incroyable, c'est comme si toi, tu avais ramené genre Meryl Streep à ton anniversaire, à l'anniversaire de ta soeur, tu vois, enfin c'est n'importe quoi. Et Bernie, il est là genre, et du coup, tu fais quoi dans la vie? Ah, actrice? Ah, c'est vachement bien. T'es là, t'es si drôle.
Clairement, c'est trop bien. Toutes les scènes, moi je trouve, avec la bande de meilleurs amis, je la trouve vraiment, je la trouve hyper... Enfin, c'est dur de faire un film avec autant de personnages secondaires que tu vois peu, mais qui en même temps t'arrives à les différencier. Ils ont des traits de caractère et des personnalités marquées, mais en même temps pas trop. Bien sûr que c'est un peu cliché, genre la petite sœur qui est un peu genre chez père et faux folle, c'est assez cliché, mais franchement, je les ai trouvés assez bien faits et assez fins dans le style. Du coup, j'étais hyper surprise. Et c'est vrai que là, pour revenir sur le trope aussi du poisson hors de l'eau, en effet, c'est ce que t'as dit, on voit les réactions de tous les amis au fait de ramener quelqu'un de connu dans un repas qui, enfin, c'est complètement décalé et c'est assez intéressant de voir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que personne ne leur demande comment ils se connaissent. Enfin, genre, moi, mon pote, ou moi, je le prends à part et je lui dis, enfin, excuse-moi, mais d'où tu connais Meryl Streep, quoi?
Il lui demande quand Anna va aux toilettes, ils font genre, ils ont 5 minutes de répit, ils font, excuse-moi, mais comment tu fais pour ramener Anna Scott, en fait, chez moi? Et il est là, genre, oh, c'est un concours de circonstances. Je suis genre, attends, moi, je me satisfais pas de cette réponse, hein. On va fumer une clope dans le jardin et tu m'expliques. J'ai trouvé, je sais pas toi, mais ça m'a fait penser à la bande d'amis de Bridget Jones.
Oui.
Ensuite, il y aura une scène avec une voiture plus loin dans le film, et j'étais genre, oh, ça m'a trop fait penser à Bridget Jones. Donc, les Anglais sont très forts pour écrire des copains.
Ouais, je me suis dit exactement pareil, même si je trouve que du coup, ces personnages sont un peu plus, limite, Non, en fait, les personnages de Bridget Jones sont assez bien travaillés aussi. Mais ils sont limite un tout petit peu plus clichés quand même, genre le gay best friend, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est très anglais. Et il y a moins de rom-com américaines, je trouve, qui arrivent à faire cette magie.
C'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'avais envie, en tout cas, d'aller vivre à Londres avec mes meilleurs amis dans une grande maison.
Non seulement moi aussi, je voudrais vivre dans une maison à Londres avec tous mes amis, mais j'ai grave envie de faire leur jeu aussi, qui est le jeu du brownie.
Oui, c'est drôle.
Où à la fin, il reste une part de brownie et ils font un peu en mode qui la mérite le plus, sous-entendu qui a eu la vie la pire et que du coup, mériterait d'avoir un peu un dernier dessert sucré. Et pareil, je trouvais que cette discussion, c'était très british parce qu'ils arrivent... Tu vois, j'ai l'impression que dans un film américain, ça serait direct parti en pathos de l'espace, en mode genre, moi, mes parents sont morts dans un accident quand j'étais petit, il y aurait eu une musique triste. Et là, c'est genre, ils se cherchent tous, c'est genre, ils se font des blagues, ils se taquinent et tout, c'est hyper fluide, ça marche grave bien. Et on en arrive du coup à Anna qui nous raconte. Et c'est rigolo parce que personne ne se tourne vers elle en mode, et toi, c'est quoi ton histoire pour le brownie? Et du coup, c'est elle-même qui dit, non, mais attendez, moi aussi, j'aimerais bien essayer. Et du coup, c'est on voit que personne ne s'imagine.
Que les stars ont des problèmes.
Que quand tu es Anna Scott, tu peux avoir un problème. Mais elle en a un peu gros sur la patate quand même, Anna.
Elle en a gros sur la patate et elle explique que sa vie n'est pas toute rose. Sa vie de célébrité qui shine bright like a diamond. Et j'ai trouvé cette scène très réussie parce que d'un côté, c'est très émouvant. Parce qu'elle dit des choses qui sont touchantes, comme depuis 19 ans, elle fait un régime. Donc qu'elle n'a pas été satisfaite par un repas depuis presque une vingtaine d'années, qu'à chaque fois qu'une de ses relations se termine, la presse est au courant avant ses parents, etc. Enfin, des trucs où j'étais là, ouais, c'est vrai que moi, j'aimerais pas aller vivre. Et en même temps, après, c'est hilarant parce que tout le monde l'écoute sur une petite musique de piano et après, ça fait genre, eh non, tu gagnes pas, tant pis, hop, et le brownie va avec quelqu'un d'autre. Et j'étais là, putain, les Anglais, ils sont si forts.
Mais oui, c'est ça, pareil, c'est que ça, tu sens qu'en vrai, en fait, si, ils ont compris ce qu'elle voulait dire, ils ont trouvé ça touchant, mais au lieu de rentrer dans le pathos, il y a un petit spin et c'est vraiment super charmant. Ensuite, ils se finissent le repas, elle repart avec William. T'as le moment où t'as tout le monde qui est dans l'entrée qui, genre, hurle et il y a William qui dit oui il crie souvent quand je pars de chez moi de chez eux,
c'est trop drôle, ils sont trop choux.
Moi, tu sens que elle est trop contente de s'échapper de sa petite routine d'actrice et d'être un peu avec des gens un peu plus normaux. Et un truc que j'ai trouvé mignon aussi dans cette scène, c'est qu'au début tu sens qu'elle est un tout petit peu mal à l'aise et qu'elle est quand même pas trop dans son élément, mais très vite en fait la mayonnaise prend avec tout le monde dans le groupe et c'est trop mignon.
Oui.
Et ensuite et la mayonnaise continue de prendre avec William,
elle prend bien la mayonnaise.
Puisqu'ils vont se balader dans un... Là, il y a la petite scène où elle escalade
la grille d'un jardin, en fait. Un jardin qui appartient à quelqu'un. Et elle escalade mieux que William. Et j'étais genre, putain, c'est vraiment... These gender norms sont réversées. C'est fou, c'est trop bien. Excusez-moi. Alors vraiment, là, le franglais, je fais aucun effort. Mais je suis malade, donc vous m'excusez. Voilà, pardon. Traitez-moi de connasse sur Twitter.
Même allez-y. Si on fait ça exactement pareil depuis... 10 épisodes.
Une fois que c'est dans le jardin, ça se repêche.
Au début, j'étais là, waouh, ça va vite. Et après, j'étais là, cela dit, moi aussi, si j'étais dans un jardin avec Hugh Grant, je le pêchoterais. Mais j'ai également noté, bon, par contre, c'est quoi la météo? Ils sont à Londres le soir, mais ils sont limite en t-shirt. C'est pas hyper clair quand même.
Bah, excuse-moi, mais Flore, j'ai l'impression qu'ils ont chaud au cul. J'ai envie de te dire que la réponse
mais
est
mais attends, William, pas trop. William, il est un peu awkward parce que, genre, à un moment, elle va s'asseoir sur un banc un peu en mode drama queen, hein, on va pas se mentir.
Mood.
Et lui, il est debout et un peu il la regarde. Et moi, j'étais là, mais go la pécho là, enfin, vas-y.
Mais moi, je m'identifie beaucoup à William parce que je suis genre, ah, que faire. Tu vois, j'embrasse ma meuf, je t'aime plus haut que les étoiles, mais genre, les signaux, c'est pas mon fort et c'est difficile à interpréter. Et les gens dans ma vie le savent.
Je comprends, je suis un peu pareil. Mais à partir du moment où la meuf s'assoit sur un banc, généralement, quand même, tu t'assois à côté.
Moi, je me dis peut-être qu'elle a mal au dos, tu vois. Voilà. Anyway, trouvez quelqu'un qui vous comprend, qui vous aime comme vous êtes.
C'est le message que l'on prend.
C'est encore une fois dans ce podcast, le point, Clara est un énorme canard. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai la meilleure meuf. Voilà, vous pouvez rien faire.
Écoutez, nous, on est tous ravis. Et le jour où je serai dans la situation de Clara, vous serez les premiers à ça. Mais visez fin 2020. 2021. J'ai une copine secrète. Non, je déconne.
Revenons. Revenons à Londres. Revenons à Londres. On a un petit montage?
Oui, où on les voit faire tous leurs dates en mode best life.
J'adore.
Mais c'est mignon parce que tu les vois pas, genre tu les vois. C'est pas comme les montages un peu où genre je sais pas la lente ou les trucs comme ça où tu les vois genre s'embrasser et machin. C'est plus genre juste tu les vois traîner ensemble quoi.
Oui, traînent ensemble, ils vont au ciné et hilarant, ils vont au ciné et William retrouve pas ses lunettes et donc le seul truc qui est à sa vue, c'est son masque de plongée et il y a cette image qui est culte maintenant de eux dans la salle de cinéma et William il a son masque de plongée pour regarder l'écran et j'étais genre putain mais c'est trop charmant quoi. C'est...
Mais moi je me suis dit quel enfer parce que respirer par la bouche tout le long du film ça doit faire un bruit de malade.
Oui. Oui. Puis c'était pré-Covid, on n'avait pas l'habitude.
Mais si c'est Hugh Grant, je vais peut-être lui pardonner. Sur ce, ils sont dans un restaurant et en fait au restaurant où ils sont dans la table derrière eux mais qui ne peut pas les voir parce qu'il y a un petit jeu bref de mur. Il y a un groupe d'hommes que je qualifierais de probablement des mecs qui bossent à la City à Londres, genre des mecs qui ont fait des écoles de commerce, vous voyez. Sorry, si vous avez fait des écoles de commerce, je pense pas que vous êtes trop dans notre type d'écoute donc
bah on embrasse mon frère mais sinon je ne pense pas.
Et où ils commencent à parler d'elle. Et mon dieu, mais les bâtards, quoi.
Écoutez, là, c'est le moment sexiste. Il en faut un dans chaque rom-com. Donc, c'est quatre mecs autour d'une table qui disent « Elle est trop bonne, Anna Scott. C'est vraiment un beau corps, machin. » Donc, Anna, elle est là. MDR. Et en plus, j'ai l'impression... Enfin, ils mangent des sushis et genre le décor, il est un peu moyen. Et j'étais là. Est-ce qu'ils sont au Wagamama? Et ceux qui connaissent Londres vont rire. Voilà, c'est hilarant. Le Wagamama, c'est une chaîne. C'est genre, je dirais pas sushi shop, mais c'est un peu fancy. Enfin, japonais, mais c'est une chaîne, quoi. Et j'étais là. Est-ce que les acteurs célèbres d'Hollywood, ils vont au Wagamama quand ils viennent à Londres?
Non, Wagamama, c'est grave le sushi shop des Anglais. T'as raison. Enfin, c'est un peu plus genre, ils font pas mal de nouilles et tout, mais c'est un peu la vibe.
Oui, c'est plus des hippoudo ou des trucs comme ça.
Mais clairement, ouais. Moi, je me suis demandé ce qu'elle foutait là. En plus, à ce moment-là, elle a pas lunettes de soleil. Et tout, je me dis, enfin, elle est en mode le poisson dans toutes les eaux de Londres. Mais du coup, non seulement c'est la minute sexiste où il commence à dire ouais, elle est bonne ou non, machin, mais surtout ça part très vite en. Enfin, tu sais, il la compare avec son autre actrice en mode non, mais elle, ça se voit que.
Oui, avec Meg Ryan.
Que c'est un peu une coquine. Enfin, c'est hyper dégradant. Enfin, c'est hyper malaisant comme discussion.
Une coquine.
Ouais, bah, non, mais j'essaie de rester polie, tu vois. Bon, on n'arrête pas de jurer depuis le début. J'ai dit bâtard, oui. J'ai dit putain, mais j'essaie de rester PG. Ça va être explicite sur Spotify cet épisode. mais du coup.
Une fois n'est pas coutume.
William est outré. Et il décide d'aller les confronter.
Il va les confronter et moi j'étais là, j'ai trouvé. Mais de toute façon, écoutez, moi je suis a simp pour Hugh Grant dans ce film. Genre il peut faire n'importe quoi, je vais être genre... Alors que je rappelle que je n'aime pas les hommes. Anyways, c'est la magie du cinéma. William va les voir et leur dit, je suis désolée, j'ai entendu votre conversation, mais j'ai envie de vous rappeler que c'est une personne qui existe vraiment. Et la manière dont vous parlez d'elle, bah, c'est un peu influencé sur sa vie. Et j'étais genre, c'est un débat... qui est très intéressant, qu'il est très intéressant d'avoir en 2021. Comme en 1999, pour revenir sur ce que tu disais au début, Flore, ce film n'a pas pris une fucking ride. Parce que c'est ce qu'on fait constamment. Constamment, on est là, ah mais Kim Kardashian, c'est une mauvaise mère, ah mais il était sous sur scène et tout, et genre, enfin... Évidemment que les gens, par exemple, je sais pas si je dis que j'aime pas l'attitude de, j'allais dire Taylor Swift, parce que je pensais à l'entre regarderont, mais non, j'adore Taylor Swift. Si je dis que j'aime pas son cardigan, petite rêve pour ceux qui l'auront, elle va pas m'entendre et sa vie va pas changer. Mais en fait, ce qu'on dit des gens, on sait jamais qui l'entend, et ça a une portée. Et je trouve qu'en 2021, avec Twitter, etc., bon là, c'est mon instant boomer, mais ce film n'a pas pris une ride pour moi. Enfin, le thème est tellement d'actualité encore, tu vois, que j'étais contente de le voir.
Et, mais moi, en plus, j'aime beaucoup ce qu'il dit Hugh Grant, parce que, genre, dans une rom-com américaine, ce qui se serait passé, c'est Hugh Grant serait arrivé, il aurait foutu une patate à l'un des mecs. Et là, et moi, personnellement, je déteste ça, je n'aime pas du tout, bah, de base, la violence physique, bah, bof, quand même. Et surtout, j'aime pas ce côté, genre, mâle alpha qui te défend en te frappant et te dit, genre, mais c'est pour ça, si vous avez vu le film 500 jours ensemble, que j'adore, il y a une scène où le personnage principal frappe l'un des mecs qui drague sa copine. Et après, quand sa copine s'énerve, il lui dit j'ai fait ça pour toi. Et elle lui dit ah ouais, c'était pour moi, c'était vraiment pour mon bénéfice. Et je trouve que c'est très vrai. Du coup, j'étais contente là que Hugh Grant prenne le parti du dialogue. Et un dialogue qu'on a tous besoin d'avoir en ce moment. Faites attention, vos mots ont des portées. Bon, après, on va pas se mentir, il y a aussi certaines stars qui ont besoin d'être. Qu'on a besoin de responsabiliser un peu pour leurs actions, mais c'est pas en envoyant 5000 tweets à la seconde en les insultant que ça va le faire.
Exactement. Et à la suite de quoi, Anna décide de réagir aussi. Elle va les voir, elle fait « Oui, messieurs, non mais il n'y a pas de souci, je me doute bien que vous pensiez pas à mal et que vous avez des bites de la taille de raisin. Allez, bonne soirée !» Et elle s'en va, j'étais genre « C'est super drôle, c'est trop bien écrit !» Parce qu'elle le balance dans la même phrase, mais genre avec un truc super smooth, ça marche trop bien, quoi. Et pareil, c'est non-violent, enfin, c'est non-violent, voilà.
Non mais surtout moi j'ai bien aimé parce que du coup c'est elle en fait qui finit par s'imposer et oui. C'est pas le mec qui l'a défendu, donc encore une fois j'aime beaucoup leur dynamique, encore une fois pour un film de cette époque c'est genre assez, enfin ils ont une dynamique
Mais je pense que c'est possible du fait que c'est un film avec un couple avec deux nationalités et que tu sais les filles américaines c'est un peu comme dans Love Actually malheureusement. Où t'as ce truc des filles américaines, elles osent beaucoup plus que les filles anglaises, etc. Et je pense que, étant donné que Richard Curtis est derrière toutes les robes comme anglaises, ça n'est pas une coïncidence. Et là, alors, il faut savoir qu'avec Flore, c'est la première fois, je crois, qu'on regarde le film quasiment en simultané. On avait quelques minutes d'écart. Ça nous arrive jamais. Et donc, j'avais des réactions en live. Et là, Flore me dit oh, ils vont baiser, c'est sûr.
J'ai clairement envoyé une vidéo de moi qui était là. Ça va Ken là, ça va Ken. Parce qu'encore une fois, moi je réagissais en live tweet. Je n'avais jamais vu ce film. Parce qu'en fait, pour si vous ne vous souvenez pas, ils vont en bas de son hôtel et elle lui dit tu veux monter, donne-moi 5 minutes. Oh oh. Ce qui me fait trop rire parce que je suis là, tu veux faire quoi? Mais peut-être se préparer. Et du coup, lui, il monte et moi j'étais là. Oh là là, ça va pécho. Oui, ça va pécho, mais c'est pas eux qui vont se pécho. Parce que qui c'est qu'on découvre? Là, j'ai écrit en majuscule dans mes notes. Quoi? Son mec?
Oh là là. Eh oui.
Elle a un partenaire.
Eh oui. Elle a un mec, elle a un Jeff, qui est le pire prénom. Désolée si vous appelez Jeff. Donc en fait, il y a Jeff en haut qui a fly depuis Los Angeles pour venir la voir. Et qui, cerise sur le gâteau, qui déjà pue la merde, pense que William est du coup le mec du room service et lui fait ramasser les assiettes de la... Je rigole, mais c'est pas drôle. J'étais dévastée, d'accord. Lui fait ramasser les assiettes dans la chambre avant de dire quelque chose d'extrêmement grossophobe à sa meuf. Donc j'étais là, tiens non, est-ce que le scénariste ne voudrait pas que nous détestions cet individu américain qui met ses gros pieds partout?
Ah bah clairement, on le voit en 3 minutes et en 3 minutes, on te brosse un portrait, tu sais qu'il est insupportable. Enfin, que c'est vraiment, il est hyper dégradant avec Anna, ouais. Il a genre zéro limite, boundaries avec les gens, il traite tout le monde un peu n'importe comment, enfin bref. Et du coup, c'est assez rigolo parce qu'à côté, t'as William qui est tellement anglais poli, c'est trop rigolo. Et au moment du coup où il redescend, enfin en gros, il a un peu des au revoir vite fait avec Anna qui lui dit je suis désolée, je ne sais pas quoi dire. Et il lui dit genre, je pense que dans ces moments, on dit au revoir, non? Et moi, j'étais là, non!
Le one-liner était parfait. Mais par contre, juste un petit tips pour vos vies. C'est clairement devenu le courrier du cœur ce podcast, mais si vous avez quelqu'un dans vos vies, dites-le avec la personne avec qui vous êtes en train de rouler des pelles au cinéma, qui n'est pas la personne avec qui vous sortez. Même si vous avez un accord entre vous, c'est important de mentionner les gens dans votre vie romantique.
Non mais surtout voilà. Là, j'étais là, elle vit risquée parce que sachant qu'elle peut avoir des paparazzis un peu du jour. Enfin, tu sais, c'était quoi son plan? Et Dieu merci que lui, il lit pas les magazines people.
Non mais surtout, Dieu merci que les paparazzis ne vont jamais au Wagamama, c'est évident et on sait très bien, c'est noté qu'ils n'aiment pas la bouffe japonaise. J'ai noté que c'était le moment avec lequel on pouvait tous s'identifier très fortement. Puisque c'est le moment d'être triste dans le fond d'un bus la nuit. On l'a tous vécu.
J'ai envoyé un texto à Clara en lui disant « J'en ai marre du Covid, j'en ai marre du confinement, j'en ai marre du couvre-feu, j'ai juste envie d'être bourrée dans un octilien ou un octambus, je sais jamais comment on dit, à Paris, en écoutant ma musique triste, quoi. Mince. Ou dans encore mieux, dans un bus à Londres. Genre, Londres me manque de ouf. Mais,
C'est dur, là.
Clairement là, donc on a fait un petit montage et on a plusieurs montages de William qui vit sa pire life de break-up, quoi. Et en gros, chacun retourne dans sa vie, chaque poisson retourne dans son océan.
Exactement. Encore un one-liner très joli, il dit « C'est comme si j'avais pris de l'héroïne et que je ne pouvais plus jamais y toucher. Donc j'aimerais dire que Twilight n'a rien inventé. » Puisque c'était une réplique d'Edward Cullen également. Donc, évidemment, comme on est dans une rom-com, il est important que le protagoniste soit en couple et ses potes essaient de le caser avec une ribambelle de meufs, donc petit montage rigolo. Ça fonctionne pas parce que les meufs, elles sont trop chez PR, sauf la dernière qui est sympathique, mais William, il est pas prêt, c'est la dep. Voilà.
Il est clairement en gros bad et c'est un mood, mais il va pas être en bad longtemps parce que qui revient sonner? quelques mois quand même, hein. Je crois que c'est genre 6 mois, enfin...
C'est 4 ou mois plus tard. En tout cas, le film se déroule sur un an, donc...
Ouais. Ah oui, non, parce que t'as raison, c'est vrai, il y a une autre coupure... non, je confonds, parce qu'on l'a dit, ce film est un peu long, il y a un peu des répétitions.
Anna revient toquer à la librairie, donc j'étais la merde. Est-ce que j'ai cliqué malencontreusement sur ma barre de lecture Netflix et qu'on est revenu au début du film? Non. Elle revient pas à la librairie, pardon, elle revient dans son appartement et elle revient en pleurant. Mais pourquoi pleure-t-elle, Flore ?
La pauvre, en vrai, c'est horrible cette scène parce qu'en gros, il y a des photos d'elle qui ont été leakées, qu'en gros, on comprend qu'elle a pris quand elle était jeune et qu'elle avait besoin de thunes. Ça s'appelle du revenge porn. Ceci, c'est condamné par la loi. Et en gros, il y a aussi une vidéo, enfin bref, et du coup, elle a un peu. C'est trop intéressant cette scène parce qu'elle est en mode je savais pas, le fameux trope, je savais pas où aller. Et tu comprends qu'en fait, le seul endroit où elle se sent bien, où elle se sent safe, bah, c'était chez lui, même si elle lui a pas parlé depuis des mois. Et lui, et en fait, c'est intéressant aussi parce que on sent qu'elle va avoir quelqu'un qui est tellement en dehors de ce monde que lui, il comprend pas trop le. Enfin, c'est pas qu'il comprend pas la gravité de la situation, mais bah, ça fait une coupure, quoi. Elle est dans sa petite vie et elle va passer une super journée là.
C'est le moment que j'ai appelé la bulle, puisque ne pouvant pas vivre dans l'univers l'un de l'autre, ça a été unsuccessful, ils se créent leur propre bulle avec leur propre eau de poisson. Et c'est vraiment uniquement autour du poisson, ce podcast. Donc elle prend un petit bain, elle lui explique qu'elle a quitté son mec, qu'elle a pas de penser à lui. Lui, il l'aide à lire à répéter les répliques de son prochain film. C'est trop mignon. Ils sont sur la terrasse, il y a personne autour. Ils sont en vieux t-shirt, vieux pull. C'est trop charmant. Enfin, c'est trop trop charmant. Et évidemment, ils finissent par faire l'amour de manière.
Mais c'est mignon comment ça a amené, parce qu'en gros, lui laisse son lit, va dormir sur le canapé, puis après, elle redescend, elle va le chercher, ils couchent ensemble. Enfin, genre. C'est mignon, c'est pas le moment,
c'est trop charmant.
Il lui propose de dormir dans le lit et elle le retient, ils sont une pelle passionnée, c'est genre hyper. Mm-mm. Et en fait, ils ont vraiment une très très bonne alchimie, ça je vais leur donner, ils ont une très bonne alchimie. Après, moi dans ma tête, j'étais là, bon, ça règle quand même pas trop tous nos soucis, les gars, mais c'est pas grave, tu as raison, on est dans la bulle.
Non, c'est une bulle.
Et le matin, quand il se réveille, c'est un peu toujours la bulle. Elle a quand même peur qu'il soit déçu d'être avec elle le matin parce qu'elle est en mode genre. Maintenant que tu as couché avec une actrice, mais tu n'as qu'une vraie personne au réveil, et je suis là, mais depuis le début, il s'intéresse même pas au fait que t'es actrice, enfin, genre, what the... Bref.
Non, et puis, enfin, c'est trop mignon parce que je trouve que lui, il est tellement, enfin, il la regarde comme la 8e merveille du monde, et il est là, genre, mais t'es aussi belle ce matin que tu l'as toujours été, et tout, et elle lui dit, je peux rester encore un peu, et il lui dit, mais reste pour toujours, et moi, j'étais là, oh là là, je savais ce qu'il y avait après, mais j'étais, oh.
Et elle porte sa chemise. Power move. Moi, à ce stade, je suis là, punaise, il reste quand même encore pas mal de temps dans le film, et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? Et ce qui va se passer... C'est chaotique.
C'est la merde.
C'est qu'il ouvre la porte et se rend compte qu'il y a une mer.
Le poisson.
L'eau du bocal est remplie de paparazzi qui les ont retrouvés. Et en plus, c'est horrible parce que du coup, il ouvre la porte, il la referme. Et Anna, elle débarque après, elle est là, qu'est-ce qui se passe? Mais à ce moment-là, je suis là, mais pourquoi tu la tacles pas pour pas qu'elle l'ouvre? Enfin, genre, protège-la.
Mais de ouf. Ça, pour moi, c'est une incohérence de ouf.
Parce que du coup, elle ouvre la porte, il est là vite fait. Non! Mais à peine, du coup elle ouvre la porte, elle se fait prendre en photo, bref, c'est le bordel. Et là elle pète un watt, Anna, mais je trouve que ça peut se comprendre, mais ça va très vite. Surtout moi au début j'étais là, elle accuse le coloc,
ça peut se comprendre,
mais en fait,
mais...
c'est pas qu'il l'a fait, donc
il y a une scène qui est hilarante, mais j'aimerais faire un big up à Riz Ifans dans ce film, qui est le comédien qui joue Spike, où genre il sort, il y a les paparazzi et il est dans un espèce de vieux slibard et il prend la pose et tout. Cette scène, elle est archi drôle. Mais en gros, Anna l'accuse en disant, oui, bah ton coloc, il a dû se dire, ah super, il y a Anna Scott chez moi, je vais pouvoir me faire des thunes et tout, donc j'espère qu'il te paiera des vacances. Et elle se casse. Et lui, il dit, mais attends, c'est fou de dire ça. Enfin, les journaux, c'est éphémère. Et ça se trouve, demain, ils auront oublié ça et ils prendront une tête de Turc différente et tout. Et en fait, ils sont trop différents. Et c'est là que leurs deux océans ne peuvent pas se mêler.
Il y a des contre-courants.
Voilà, le détroit est trop étroit. Ça ne fonctionne pas.
Ah, moi, à ce moment-là, il me fatigue un peu. Enfin, elle s'énerve. et tu sens qu'elle va trop loin et en plus elle commence à accuser tout le monde et tout. Mais j'ai trouvé que lui il est un peu insupportable dans ce moment parce que, enfin, il est en mode mais non mais c'est pas grave et tout. Et t'es là, enfin, et elle lui dit un truc qui est très vrai, elle lui dit toi ça fait 10 minutes que tu vis cette vie, moi ça fait 10 ans. Et je te dis que là ce qui se passe c'est pas juste, on va pas les jeter, les journaux vont pas être jetés, tout le monde va oublier. Et c'est les, il dit, je crois que c'est lui qui dit nos perspectives sont différentes.
Ouais.
Personnellement dans cette scène je le souligne quand même, il y a un truc que j'ai pas trop trop aimé où il utilise sa meilleure pote handicapée comme genre un peu la leçon de vie où il est là genre
ouais c'est nul
mais ça va il faut relativiser, moi ma pote elle est tombée dans un escalier maintenant elle est handicapée, j'étais là enfin pardon mais quelle est-ce que c'est vraiment
alors mais... excusez-moi mais qu'est-ce que ça a à voir avec le schmilblick.
Mais il est charrié un peu dans tout le film sur ça, qu'il essaie tout le temps de faire des perspectives et tout et qu'il est un peu en mode genre il y a des gens qui meurent dans le monde alors que bah, ça règle pas le problème en face.
Et par contre il y a encore un dialogue que j'ai noté parce que moi je suis férue de tout ça. Et elle lui dit je vais regretter cette nuit toute ma vie, et lui il lui dit je pense que je ferai le contraire si ça ne te dérange pas. Et j'étais là oh c'est bien écrit. Oh là là, c'est très bien écrit.
Mais elle s'en va.
Et elle s'en va.
Elle s'en va. Et on se rend compte que c'était le coloc qui bourré l'a raconté à des gens, et que c'est comme ça qu'il a été retrouvé. Et là, le temps passe, on a un petit montage.
Twilight, encore une fois.
Voilà, exactement. Il n'y a pas Likely en fond, mais on aimerait bien. C'est un peu le mood.
Ah non, il y a Bill Withers. C'est, excusez-moi, pour les boomers comme moi, c'est beaucoup mieux. J'adore Bill Withers.
Je suis désolée, ça n'a pas la même portée cinématographique. Bon, à l'époque, Likely avait probablement 10 ans, donc elle ne pouvait pas composer, mais si elle avait... mais du coup le temps passe. Là je trouve que ça commence un peu à se...
Là c'est long.
À être trop long.
Ouais. En fait là ça se répète trop je trouve à partir de ce moment-là.
Ouais, et surtout je comprends pas. Alors déjà il y a la sœur de William Honey qui trouve le numéro de l'agent de Bella et qui lui donne en mode genre mais appelle-la, mais il le fait pas. Il y a plein de moments, il y a juste là un moment que j'aime bien, c'est qu'ils ont un repas tous ensemble pour discuter un peu du fait que bon ça fait 6 mois et que c'est fini.
Oui.
Et il y a un petit speech de Bella que je trouve très bien. Le personnage qui est en fauteuil roulant et qui fait un petit speech en mode de toute façon, la vie, on ne sait jamais ce que ça peut nous amener et on ne pourra jamais voir, il faut juste s'adapter, tu ne peux jamais savoir, blablabla. C'est un peu mignon, tout ça. Tout ça. Encore une fois, toutes ces scènes avec eux en potes,
je les aime trop. Groupe,
vraiment, je trouve que ça fonctionne.
Oui, puis ils sont dans le resto de leur pote Tony qu'on a vu au début, qui du coup lui a fermé son resto. Donc en fait, là, temporellement, on est un an après le début du film. Donc Tony a fermé son resto, Bernie a perdu son job à la City, et la seule vraie bonne nouvelle c'est que Spike le coloc et Oni la sœur se sont fiancés. Et en fait ça, au début tu les relis pas du tout ces deux personnages, et quand tu les vois ensemble ça coule de source, ils sont trop choux, genre ils sont ravagés du slip, ils sont trop mignons. J'aime beaucoup ce pairing là, je le trouve très mignon.
Ravagés du slip, c'est clairement le bon terme. Mais on va essayer de retrouver notre pairing un peu moins ravagé, mais en fait assez ravagé quand même. On apprend que Anna est à Londres et qu'elle filme, elle tourne un film à Hampstead Heath, qui est personnellement l'un de mes endroits préférés de Londres. Si vous y êtes jamais allé, la prochaine fois que vous allez à Londres, Inch'Allah, hein, quand est-ce que c'est, vraiment je recommande. C'est un grand parc dans Londres, magnifique. Et du coup, il vient la voir. Elle est en train de faire un film avec les chevaux, qui était un peu l'inside joke de tout le film. C'est mignon.
Et elle joue dans un film de Henry James, un truc qu'il lui avait suggéré quand il répétait une scène sur sa terrasse. Donc il est là, waouh, elle m'a écouté, j'ai eu un impact dans sa vie. Et ensuite, l'assistante réelle lui file un casque pour qu'il écoute les dialogues de Anna et de son co-star anglais. Et en fait, il l'entend dire à l'acteur anglais, ah non, mais le mec est venu me voir, c'est un mec un peu paumé, je sais même pas pourquoi il est venu. Et là, je suis genre... Stop. Make it stop.
Ouais, là,
c'est trop
grave. Mais là, c'est un peu long, tu vois. Il y a un nouveau élément perturbateur et tout. Surtout qu'après, il est réglé assez vite quand Anna lui dira « Mais tu crois que j'allais raconter toute ma vie à ce mec que je connais pas ?» Ce que je trouve assez intéressant, parce que c'est là qu'on voit qu'en fait, le personnage de William, il est tellement hors du monde, hors de l'océan, de Anna, que jamais il peut se douter que, en fait, elle... C'est juste qu'elle raconte pas sa vie privée à n'importe qui.
C'est ça, et je trouve que même au niveau de la mise en scène, le fait de lui avoir mis un casque pour pouvoir comprendre ce qu'elle disait, c'est très dans cette démarche-là aussi de dire, regardez, ils sont tellement pas dans le même univers, tu vois. Il y a carrément cette barrière-là qui les sépare. Mais bienvenue dans le masque et la plume.
Attention, on arrive pour eux. Et là, c'est reparti, on est de retour. Pardon, je suis un peu saoulée parce que je suis là, mais attendez, mais... Quand est-ce que ça s'arrête cette histoire ? Parce qu'en plus,
quand elle est rentrée
dans la librairie, j'ai cru que ça allait être la fin. En mode retour aux sources, tu vois. Mais même... Non, il faut que ça soit encore un peu long. Là, franchement, tu vois, vraiment, j'ai trouvé que c'est... trouve ça patine. Enfin, vraiment, c'est
ouais,
trop
long. Ça pédale dans le smoule.
Mais du coup, pour la faire un peu plus courte, elle arrive dans la librairie, elle lui amène un cadeau. C'est un tableau. On le voit pas, mais on comprend très vite que c'est un tableau de Chagall dont ils ont parlé. Ça me fait trop rire. Elle lui offre un cadeau. Genre, il pense que c'est un original, donc c'est genre un truc à genre 1 million de... Bon, bref. Écoutez, elle est généreuse.
Ok, elle est généreuse.
Et en gros, elle lui dit genre, allez, s'il te plaît. Enfin, j'ai fait une erreur un peu. Enfin, voilà. Et là, elle dit la phrase probablement la plus connue du film. Clara, puisque tu es en mode Skyblock cet épisode, je te laisse la scène.
Alors avant, moi j'ai noté 3 phrases, d'accord ? Écoutez-moi bien, j'adore. Elle lui demande, est-ce que tu penses que tu pourrais m'apprécier de nouveau ? Et moi j'ai dit, franchement, cette relation est quand même vouée à l'échec, mais continuons parce que c'est un Richard Curtis. Lui, il lui explique que son cœur ne tiendrait pas le coup si elle le requittait, qu'avec elle, il est en danger, et qu'il y a trop d'images d'elle pour lui rappeler son existence, trop de films, etc. Et moi je me suis dit, oh putain, imagine à chaque fois... ton ex, vous vous séparez et tout, et ensuite toute ta vie dans les journaux, dans les films, dans les discussions de potes, on ne parle et on a d'images que d'elle. Mais non, quel enfer!
T'as toutes les nouvelles sur ses nouvelles conquêtes, ses nouveaux partenaires et tout. Ça doit être trop dur.
Un enfer. Il lui dit, tu vis à Beverly Hills, moi je vis à Notting Hill. Le monde entier sait qui tu es. Ma propre mère a même du mal à se rappeler mon prénom. Du coup, ils vont rester là. Et là, elle dit la phrase. Et oui, c'est long. Elle dit la phrase qui est la plus classique, qui est la plus connue du film, qui est « Je suis aussi juste une fille devant un garçon, lui demandant de m'aimer. » Parce qu'en fait, c'est ça l'essence d'Anna. C'est pas une star, c'est juste une meuf.
Wow. Et franchement, j'avoue, ça claque. Moi, ce que j'aime bien, c'est que cette phrase, après, elle est répétée dans la scène d'après, parce que genre Richard Curtis, il était là. Franchement, c'est une bonne ligne. J'ai vraiment envie qu'on la surligne. Je vais faire une grande la répéter dans la phrase, dans 3 scènes. Mais clairement, lui dit aussi, genre, on est de 2 univers trop différents, mais moi, je suis là. Mm-mm. Non, non, mais attends, excuse-moi, tu veux pas ressortir avec elle parce qu'elle est hyper inconsistante comme meuf. Et moi, surtout, en fait, à ce moment-là,
bah oui.
Je vais pas vous cacher, c'est là que moi, le trope du coup de foudre est difficile pour moi. C'est que là, ça fait genre, ils sont traînés ensemble 1 semaine, puis elle a disparu pendant 4 mois. Elle est venue 1 journée chez lui. Elle a redisparu pendant 6 mois. Et là, il revient et c'est en mode genre I love you forever. Et je suis un peu là genre, mais en fait, enfin, vous vous connaissez pas, ouais. Tu vois.
Non, mais c'est surtout, moi, je trouve qu'il y a un déséquilibre parce que elle connaît bien William. Elle connaît son appart, sa famille, son coloc, tu vois. Enfin, et lui, on sait rien d'elle, en fait. Et je trouve que ça contribue malheureusement à ce truc de star system en mode ah, mais les stars, elles sont intouchables et tout. Et c'est un des trucs que je reproche au scénario, malheureusement. Désolée, Richard, si tu m'entends.
On t'aime. mais on t'aime parce qu'après, il y a une petite scène qui grave un mood qui est William qui raconte à tous ses potes ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment genre Clara et moi dans nos notes vocales WhatsApp où on se raconte des trucs. Et du coup, il décide de faire demi-tour. Enfin, c'est la trope du demi-tour connue. Et c'est trop mignon parce qu'en fait il y va pas tout seul, il y va avec tous ses potes dans la voiture. Et ils sont tous, et c'est le bordel, ils savent pas où aller, ils s'engueulent. Franchement, j'ai trouvé cette scène trop trop mignonne, même si à ce moment là je suis là, oh, pitié, mais genre allez là, j'en peux plus. J'en finissais.
Un truc trop chou aussi, c'est que le couple de Max et Bella, donc la personne en fauteuil roulant et le mec qui cuisine mal, désolée hein, c'est les 2 seuls trucs que j'ai pour vous les faire différencier des autres, il est adorable. Parce que Max, il conduit, c'est sa voiture. Et Bella, elle reste sur le trottoir, du coup. Et il dit, ah non, mais c'est mort. On l'emmène avec nous. En fait, c'est ma femme. Et genre, elle va prendre partie à cette aventure. Il n'y a pas le choix. Donc, en fait, il la porte et il la met dans le siège de la voiture. Et j'étais là, oh, leur histoire d'amour, elle est trop bien. J'avais envie de voir une rom-com sur eux, après.
Grave.
Ils arrivent au Ritz. Et au Ritz, bah, MDR, c'est pas le bon hôtel. Parce qu'elle est en conférence de presse. Dans un autre hôtel. Donc ça, c'est juste un truc du scénario pété. Je trouve qu'on aurait pu s'en passer.
Voilà, tu vois, parce que là, il y a un peu une blague où en fait, il sait qu'elle utilise des faux alias, qu'ils essaient de retrouver. Et c'est genre, ok, on a compris, vous avez de la complicité, mais genre, en plus, tu sais, quand ils arrivent dans l'autre hôtel pour la conférence de presse, il y a encore un peu sa patine parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans la... Ça patine que de quelques minutes, mais genre, c'est déjà à ce stade, c'est trop. Et moi, je trouve que le scénario est trop décousu.
C'est trop.
Du coup, et là, surtout quand on arrive dans la scène que vraiment j'ai pas compris. Parce que je la trouve pas du tout logique avec le personnage d'Anna. Mais du coup, vas-y, raconte ce qui se passe avant que je fasse mon.
Donc en gros, il arrive au milieu d'une conférence de presse pour le nouveau film d'Anna, un peu comme au début du film. Donc on apprend plusieurs choses. On apprend qu'elle a décidé de mettre en pause sa carrière pendant au moins 1 an. On apprend aussi qu'il y a des rumeurs que, comme quoi son ex s'est mis avec une nouvelle meuf. Et elle est là, genre, oui, j'ai entendu, machin. Et donc, lui, il arrive à s'infiltrer dans cette conférence de presse-là et il arrive à poser une question. Et alors, moi, je trouve ça... Enfin, j'adore ce film. Donc, je trouve ça romantique, mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. Je suis d'accord avec toi. Et il lui demande, devant donc un parterre de, je sais pas, 50 personnes dans la salle, est-ce que vous pensez que l'individu anglais avec qui on vous a vu récemment dans les People, est-ce que vous pensez que vous pourriez être plus qu'amis si jamais il se rendait compte qu'il avait fait une énorme connerie et qu'il vous présentait ses excuses? Et elle dit genre, oui, je pense. Et après, il y a cette latence où l'agent, il fait, non, on va prendre une autre question. Et je suis genre... il aurait pas dû faire ça, ça casse un peu le rythme.
Voilà. Non, mais et donc clairement là, voilà, ils finissent par, enfin tout le monde les prend en photo, tout le monde rigole, elle a les petites larmes dans les yeux et tout, et c'est en mode genre waouh, love, et j'étais en mode oh c'est Mimi, bon c'est un peu un forceur Hugh Grant, mais c'est Mimi.
Ouais, mais c'est Mimi.
Mais en fait là, ce que je ne trouve pas du tout logique, c'est que
c'est la suite, oui.
Non, c'est même pas la suite, c'est même en fait le fait que de base Anna, tu comprends qu'elle est très privée dans sa vie et qu'elle a dit à William que genre c'était dur d'avoir toute sa vie affichée dans les People, que genre dès qu'il se passait un truc romantique dans sa vie, c'était partout, et il lui fait sa déclaration devant toute la presse, et elle est émue. Moi je suis là, mais enfin c'est un peu bizarre, tu comprends que c'est quelqu'un qui préfère sa vie privée. En fait je trouve ça dommage, parce que tu sentais que tous leurs beaux moments, c'est quand ils étaient dans une petite bulle qui était en dehors du regard extérieur, ou alors qui était avec le regard extérieur des potes de William qui sont hyper bienveillants. Et du coup, de faire le dernier split amoureux romantique, enfin la dernière scène importante comme ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je pense qu'ils veulent le faire en mode genre, regardez, il pénètre aussi un peu son monde, il va nager dans son océan. Ben,
c'est exactement ce que j'ai noté. Moi j'ai noté que c'était la rupture entre les deux mondes, les deux bassins, et que en fait on le voit pour la première fois dans le retour d'une caméra dans la mise en scène, Hugh Grant. On les voit tous les deux dans un retour différent de caméra, et j'étais genre ça y est, ils sont dans le même univers maintenant. Tu vois,
je trouve qu'ils auraient pu le faire, ou genre il y aurait eu un truc d'interview, mais genre pas avec autant de monde. Tu vois, là ce qui est chaud, c'est que c'est vraiment une conférence où genre tout le monde les regarde, et du coup je trouve que, tu vois, il aurait pu aller sur son set de tournage et le dire devant juste vite fait le cast et tout. Là c'est vraiment devant tout le monde et devant toute la presse People qui les a à moitié séparés, il y a trois scènes. Je trouve que c'est vraiment pas logique, ouais. Et c'est juste pour faire un peu une scène un peu grandiose dont je trouve que le film aurait pu se passer.
C'est vrai, surtout que ça se suit par quelque chose que je trouve dommage, qui est malheureusement, j'adore les mariages, invitez-moi à vos mariages, mais ils se marient, et en fait je suis genre, ah c'est quand même très conventionnel. Enfin, il se marie dans un truc hyper chic et tout. Bon, alors après, t'as des clins d'œil rigolos. Tu vois que la sœur, elle s'occupe de tous les petits-enfants de cœur et tout. Que c'est leur pote Tony qui a un restaurant qui a fait la pièce montée alors qu'il était en faillite trois scènes plus tôt. Que leur pote danse à leur mariage et tout. Mais en fait, enfin, je trouve ça hyper institutionnalisé comme film. Et si la fin, ça avait juste été Julia Roberts qui dit « Je veux rester indéfiniment à Londres pour rester avec William », ça aurait été beaucoup plus réussi comme fin. Et là, la fin se traîne le cul parce qu'ils se marient. Ensuite, il y a une scène où ils sont à une espèce de première de film, je crois.
D'avant-première, ouais, une avant-première de film.
Qui, pour moi, n'a pas beaucoup de sens non plus. Enfin, elle n'apporte rien, en fait, si ce n'est que oui, tu vois qu'il évolue dans son univers à elle et qu'ensuite, elle est dans le sien puisqu'il retourne dans le petit jardin à Notting Hill sur le banc. Qu'on avait fait au début, mais en fait je trouve que c'est trop alambiqué comme fin. Enfin, c'est un peu chiant, tu vois, toutes ces scènes rajoutées.
Oui, et à la fin on voit qu'elle est enceinte, et en fait moi aussi ça va avec un truc que personnellement je n'aime pas trop. Après, dans les rom-coms je le pardonne plus parce que c'est un peu le but, mais c'est le côté, en fait, il faut absolument qu'on fasse comprendre à la personne qui regarde le film, au spectateur, que c'est bon, ils finissent ensemble pour toujours, c'est beau, c'est
marié,
et je trouve ça très fatigant en ce moment. C'est un truc qui me déplaît énormément dans le cinéma, où on fait un peu des suites à tout va, et que quand du coup on finit un film sur un suspense ou sur un cliffhanger où là c'est pas réglé, il faut absolument faire une suite. Et par exemple, je vais la faire courte, qu'après je vais m'énerver pendant 10 minutes dans ce podcast, mais je suis outrée qu'on va faire une suite à Call Me By Your Name, qui finit et dans la suite ils sont censés se retrouver, alors que c'est une histoire d'une amour de jeunesse que tu retrouves jamais. Enfin, c'est pas fait. Et c'est parce que les gens, c'est en mode, non, mais ils s'aiment, il faut absolument qu'ils finissent ensemble. Écoutez, je vais vous le dire, dans ce podcast, puisqu'on est en mode courrier du cœur, il y a des belles relations qui se finissent. Et c'est pas parce qu'une relation est forever qu'elle est mieux qu'une relation courte. Donc arrêtez. Bon, là je sais, c'est une rom-com, c'est un peu fait pour, c'est fait pour la magie.
Oui, et il me semble que Call Me By Your Name, il y a une suite qui est écrite parce que c'est un roman au début. Mais je partage ton point de vue.
Il l'a écrit, l'auteur avait dit qu'il ferait pas de suite, et en voyant le succès du bouquin, il a. Enfin, du lit. Du
oh, putain, film, il a fait ce qu'on appelle une. Arthur Conan Doyle, qui a ressuscité Sherlock Holmes parce que la reine Victoria était là. Dis donc, frérot, c'est mort.
Exactement, c'est ça, tu vois, c'est ça, moi, qui me fâche, c'est quand les choses ne sont pas faites pour avoir une suite. Et quand ils font souvent ça aussi avec des mini-séries, quand il y a une mini-série qui marche super bien, en fait, ils en font des suites alors que, en fait, on aurait pu s'arrêter là et c'était écrit pour s'arrêter là. Et après, en général, la suite est jamais aussi bien que le début. Voilà.
Je le Allô, la Casa des Papels. Voilà, je pose un pavé dans la mare. Moi, je suis comme ça. J'en ai rien à foutre.
Je suis aussi une fille qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer.
Bon, après deux heures assez longues, on va pas se mentir, on est quand même contents. Ils sont finis ensemble et nous en arrivons à la conclusion de cet épisode où nous allons refiler la métaphore du poisson qui était vraiment hyper lourdingue cet épisode, mais j'ai adoré.
Putain, ouais.
Digne d'un article Skyblog, de mes articles Skyblog de... J'avais fait tout un article d'une taille, genre une page Word, où je faisais un métaphore où je disais que j'étais un livre. Voilà, je pensais que j'étais hyper deep. Je te jure. Bref, je pourrais le retrouver. Allez, je le lirai pour un autre épisode. Mais je sais pas si j'assume, ça devient vraiment trop dur. Franchement.
C'est beaucoup là, moi. Ça fait beaucoup. Oui, oui.
Mais du coup, Clara, comment penses-tu que le trope fonctionne ou ne fonctionne pas dans ce film ?
Moi, je trouve que c'est le film que j'utiliserais pour définir le trope du poisson noir de l'eau, puisque ça marche pour les deux protagonistes, ce qui n'est pas souvent le cas. Souvent c'est l'un qui est projeté dans le monde de l'autre et on oublie totalement le monde dans lequel il évolue au début. Et là je trouve ça intéressant que ce soit dans les deux et que la difficulté d'adaptation soit quasiment égale dans les deux, pour Anna comme pour William. Et je trouve que vraiment la meuf est là genre bah ça fonctionne. Mais j'ai pas grand chose à dire sur ce trope, si ce n'est que je trouve que c'est encore une fois abordé d'une manière qui est pas très réaliste, alors que c'est un trope qui est hyper réaliste pour le coup, parce que de toute manière quand tu es engagé dans une relation romantique avec quelqu'un, tu es projeté dans son univers, genre pour moi par exemple la manifestation de ce trope là dans la vraie vie, le plus je vais dire violent mais c'est pas le mot que je vais utiliser, mais le plus factuel en tout cas, c'est quand tu rencontres la famille ou les potes de la personne avec qui tu sors. T'es forcément un poisson hors de l'eau, personne te connaît. Enfin, à part ton écoute à meuf, j'espère. Mais il y a ce truc-là où je trouve que ce trope, il peut être très vite applicable dans la vraie vie. Et là, dans cette rom-com, c'est impossible. Personne ne sort avec une star d'Hollywood du jour au lendemain. Mais ça fonctionne parce que c'est raconté comme un joli conte. Et moi, je suis friande de ce genre de choses. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime l'amour. On ne se refait pas.
C'est la conclusion de chacun de nos épisodes. Enfin, on est là, waouh, l'amour, love it.
Love it.
Mais non, je suis d'accord avec toi que je trouve que ça fonctionne bien, que c'est intéressant de voir leurs deux côtés. Après, même si je trouve qu'un truc qui est intéressant, c'est que l'univers d'Anna, tu sens qu'elle a pas vraiment envie d'y être en fait. Enfin, qu'elle y est, mais un peu, c'est un peu. Elle aimerait bien plus appartenir à l'océan de William. Et lui, il a pas trop envie d'appartenir à son océan à elle quand même. Tu sens qu'il est un peu où il se rend pas compte de tout ce que ça inclut. Mais du coup non, clairement ouais, je trouve quand même que ça fonctionne bien, qu'ils sont attachants, qu'il y a plein de petites scènes où tu sens, c'est quand même bien joué, genre il joue assez bien quand lui va la voir. Et en plus il y a bien, on n'est pas forcément rentré tout le temps dans les détails, mais par exemple quand il essaie d'aller la voir sur des sets, il y a la sécurité qui le laisse pas passer, t'as des manifestations très physiques de ces barrières qui retiennent leur monde d'être pour eux. Il y a d'ailleurs une scène où les amis de William lui disent mais ça n'allait jamais marcher, enfin t'allais jamais sortir avec Anna Scott. Et du coup qu'à la fin, mais du coup ce qui est intéressant c'est que à la fin elle met sa carrière en pause pour commencer sa relation avec lui, mais à la fin, tu les vois quand même à la première. Donc en fait, tu te rends compte qu'elle n'a pas non plus sacrifié son univers pour lui.
Oui, c'est ça qui est bien.
Et qu'ils ont, et quand même, ils arrivent, ça arrive à fonctionner. Mais je suis d'accord, je pense que c'est se sentir un peu hors de l'eau. Moi, je dirais que l'amour, le propre même de l'amour, c'est d'être un poisson hors de l'eau parce que ça te fait se sentir un peu.
C'est beau ce que tu
dis. Au début, en tout cas, forcément, t'es toujours un peu hors contrôle et tout. Waouh, la Skyblog de 2007, shaking.
On est en 2006, là, c'est chaud. Hein.
Oh, oula, il y a le scénariste de Jeux d'enfants qui nous a appelé, il veut nous embaucher pour son remake. Pardon, on t'apprécie.
On ne peut pas s'en empêcher. Nouvelle année, pas nouvelle nuit.
Jamais, jamais mon jeu d'enfant, mon Némésis jusqu'au bout.
Ah, écoutez, sachez que j'ai envoyé une vidéo de moi qui fait du lip-sync sur cette chanson à Flore pendant que nous regardions le film. Parce que j'adore Charlotte d'amour, j'adore l'amour, j'adore les rancœurs. Je pense que j'ai encore de la fièvre.
Finalement, elle est toujours malade, elle ne pourra pas sortir non plus la semaine prochaine. Non mais oui, aussi, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais la BO du film est très bien. Écoutez, on était vraiment ravis de pouvoir se faire ce petit épisode de rentrée et on a hâte de commencer l'année 2021 avec vous. On espère sur de bonnes augures, mais honnêtement, qui sait, on enregistre ça, il est actuellement, on est le 10 janvier, le temps que l'épisode sorte, qui sait ? Qui sait où sera le monde ? Écoutez,
si on est en confinement, on vous embrasse, courage, on l'a déjà fait 2 fois, on peut le faire 3, ça va bien se passer.
Voilà. Oui, on parle Clara et Flore du futur. Bonjour, c'est Clara et Flore du passé.
Ça va aller les
ça
filles.
Ça va. On pense à vous, on vous aime. Et tous les vous du futur, on vous aime.
On vous aime très fort. N'oubliez pas, si vous voulez nous suivre en dehors des épisodes qui sont postés tous les derniers mercredis du mois à midi, on a aussi des pages sur les réseaux sociaux où on est extrêmement drôle. Généralement, si vous nous parlez sur Instagram, ce sera plutôt Flore qui répondra. Sur Twitter, c'est plutôt moi. Donc choisissez votre favorite, il est grand temps. Voilà, ça fait 2 ans bientôt que le podcast existe.
Tu crois que bientôt, ils vont faire des teams. Mais non, vous comprenez pas, on est une même personne en fait.
C'est comme il n'y a pas de team Jacob, il n'y a pas de team Edouard, on est team Bella. Hein ? Voilà.
Exact.
C'est la meilleure métaphore à laquelle j'ai pu penser, je suis désolée. Voilà.
Mais peu importe où vous nous écrivez, de toute façon, des screenshots seront envoyés à l'autre personne.
Oui, ne vous inquiétez pas.
C'est trop mignon, il y a une personne qui nous a envoyé un message trop mignon et quand j'ai répondu, elle a dit « Oh, c'est trop gentil que vous répondiez », j'étais là. Mais vous savez, on n'a pas non plus des messages tous les jours, on n'est pas encore des rostas, les gars. On n'en est pas là. Mais non,
si
mais
vous voulez fantasmer une relation avec nous pour être un poisson hors de l'eau dans la fame, n'hésitez surtout pas à se la dire.
Vous pouvez donc nous suivre sur Instagram @romcommentlepodcast et sur Twitter @romcommentlepod.
C'est toujours beaucoup plus drôle.
Bisous Clara.
Au revoir Flore.